RMC Running, le cabinet de Maître Yodu.
Salut à tous, bienvenue dans le cabinet du Maître Yodu. Vous connaissez le principe, toutes les semaines, un auditeur a la chance de venir s'entretenir 40 minutes avec le meilleur coach de France qui est là, Johan Durand, en téléconsultation parce qu'il est en direct de ses montagnes pyrénéennes. Salut Yodu.
Salut à tous, salut Benoît. Ah voilà, c'est en direct des montagnes parce que pour te dire la vérité, je suis même en terrasse face à 360 degrés, une vue partout panoramique de la montagne.
Ouais, quel bonheur. C'est le vrai médecin qui se régale.
Il y a une semaine, j'étais dans ton studio parisien, climatisé, mais tu vois, stressant quoi.
Ouais, exactement.
Et là, ça respire.
Donc c'est de la téléconsultation, on a compris aujourd'hui. C'est ça.
Oui. Voilà. Ben, c'est payé double.
Ah, c'est payé double, ok. Excellent. Donc vous connaissez le principe, hein, si ça vous intéresse de venir échanger avec Johan Durand, vous adressez un mail à l'adresse mail suivante podcast@rmcrunning.com. On vous remercie d'ailleurs pour le nombre de candidatures. On répondra à vous tous et on prend le temps comme ça d'étudier toutes les candidatures. Je remercie également tous ceux qui nous suivent sur Strava, sur Instagram, continuez de nous suivre et de laisser des notes et des commentaires sur les différentes plateformes de téléchargement. On y va vite, Yodu, parce que c'est parti, Thibaut patiente en salle d'attente. Salut Thibaut.
Salut.
Thibaut, je suis très fier que tu sois que tu as fait le déplacement. Tu vis à Amsterdam et tu es venu jusqu'à Paris pour cette consultation.
Et en courant en plus.
T'imagines le mec ? Ça fait 3 jours que je cours pour parler à Johan. Pas du tout. Bon, comment ça va ?
Ça va très bien. Très heureux d'être ici.
Eh bien écoute, sois le bienvenu. On a hâte d'entendre ta problématique. Donc merci une nouvelle fois d'être venu, d'avoir fait le déplacement d'Amsterdam. Tu vis à Amsterdam, tu vis aux Pays-Bas ?
C'est ça, depuis 8 ans.
Qu'est-ce que tu fais dans la vie alors ?
Je suis professeur de droit.
Ok, professeur de droit, donc en néerlandais ?
En anglais.
En anglais, ok.
Ouais, néerlandais, j'ai cru que c'était une langue que je pourrais acquérir au fil des mois et je confirme que c'est strictement impossible.
Ah ouais, alors ?
Non, c'est le cas pour moi.
Alors, ton niveau, c'est quoi ? comment tu l'évalues, ton niveau néerlandais, alors ?
Mon niveau, c'est Duolingo 800 jours, ce qui veut dire que je peux à peu près commander un croissant et ça s'arrête.
Ah ouais, c'est si dur que ça ?
Ouais, c'est vraiment.
Ah, c'est dur, là.
Bon, en même temps, on n'a pas trop envie. On n'a pas trop envie d'apprendre tout ça, quoi. Voilà.
Non, et puis c'est vrai que c'est une langue qui ne donne pas envie non plus. Hein.
Non.
C'est un mélange d'allemand et de je sais pas quoi.
Et là où il faut leur reconnaître quelque chose, c'est qu'eux parlent très bien anglais, en revanche.
Alors, c'est, je crois, le pays
complètement.
Où les gens parlent plus anglais d'Europe, plus que même au Royaume-Uni.
Ah
avec
ouais.
99,6%. D'ailleurs, si je peux me permettre une petite anecdote, moi, je pensais par politesse, en arrivant dans le pays, que je demanderais aux gens s'ils parlent anglais. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était extrêmement mal poli.
Ah, c'est insultant.
C'est insultant parce que ça sous-entend qu'ils font partie des 0,4% de la population qui ne parle pas anglais. Ah, et donc, c'est vraiment la question à ne pas poser. Donc, quand vous y allez, parlez anglais directement.
Parce qu'ils sont arrogants et hautains, mais tu m'étonnes quand ils voient les Français avec leur niveau d'anglais. Si on arrive avec Johan là-bas, ils vont nous prendre pour des tocards.
Ah ouais, non, mais
laisse tomber, quoi.
Moi, pour au camp Azix, on a quand même pas mal de néerlandais.
Oui.
On a même le manager qui est néerlandais. Mais même entre eux, ils se parlent en anglais.
Même eux, ils ne se parlent même pas en...
C'est dingue.
En néerlandais.
Ouais, même entre eux.
Ouais, c'est dingue.
Alors qu'ils pourraient se parler en néerlandais, ils se parlent en anglais.
Ok. Pourquoi tu cours alors ?
Ah, alors ça, c'est une question que tu poses en début de chaque épisode, que j'adore. Donc j'ai eu le temps d'y réfléchir avant même de savoir que j'allais venir.
Ah bah tu m'étonnes.
Bon, je vais essayer de faire court. La raison de ce pourquoi je me suis mis à courir, c'était visiblement un événement complètement hasardeux. J'étais sur mon vélo le 1er mai 2023 et je me dis, tiens, je vais m'inscrire au marathon d'Amsterdam. Sans savoir quand est-ce qu'était le marathon, ce que ça impliquait en termes de prépa, s'il était possible de s'inscrire.
Personne t'a poussé, t'y allais tout seul comme un grand.
Comme ça, visiblement, une décision tombée du ciel qui est complètement hasardeuse.
Ça va ?
Si je prends un peu de recul sur cette décision, je pense que ce qui s'est passé, c'est que quelques mois auparavant, on venait d'avoir un petit garçon avec ma compagne.
Ok, on les embrasse.
On les embrasse.
Ok.
Et que j'ai vraiment vécu comme l'entrée dans l'âge de la raison. Et je pense que j'avais besoin d'une décision qui soit complètement... déraisonnable et de me dire que j'allais m'inscrire en marathon comme ça, ça semblait être complètement fou et donc je me suis dit bon bah allez, je m'inscris pour cette raison et puis on verra bien ce que ça donnera. La raison de ce pourquoi j'ai continué à courir, je pense que c'est pour une question d'équilibre entre mon travail, donc comme tu l'as dit effectivement je suis professeur de droit et donc chercheur, c'est un travail que j'adore. En revanche, la course ça m'amène un équilibre avec ce travail parce que quand on finit une course, il n'y a jamais personne qui va venir me voir à la fin de la course une fois la ligne d'arrivée franchie en me disant bah, aujourd'hui très bonne course mais on a décidé de vous ajouter 2 minutes sur votre temps officiel. Ça n'existe pas.
Ah non.
Et à l'inverse de mon métier, où quand on soumet un article, une demande de financement, etc., il peut toujours avoir quelqu'un qui va venir à la dernière minute te dire « bon, bah là, pas aujourd'hui ». Et il y a quelque chose de très difficile, par ailleurs, en tout cas, que moi, je trouve difficile dans ce travail, c'est qu'on ne peut pas mesurer ses progrès de façon très précise.
Ouais, bien sûr.
Je ne peux pas dire « mon dernier article est 2,4% meilleur que mon article précédent, ça ne veut rien dire ». Or, sur la course, c'est quelque chose qu'on peut faire. Et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup.
Ok, alors on ne trahit pas de secret, vous connaissez le principe du cabinet, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas les auditeurs avant qu'ils arrivent. On a quand même eu le temps là, d'échanger avec Thibaut depuis qu'il est arrivé pendant 5 minutes avant que Johan arrive. Johan, sois bon là cette fois-ci, parce que là tu as des questions très précises qui t'attendent. Je te le dis, mon vieux.
Ah, là, ça c'est pointu.
Ah ouais.
C'est là, des problématiques très pointues.
Là, monsieur le professeur, t'as pas loupé quoi. Donc méfie-toi, ça va être assez délicat pour
Est-ce
toi.
Est-ce qu'il
quoi.
A son petit carnet avec la liste et le crayon en main ?
T'inquiète pas, il a tout en tête. Tout est carré, tout est organisé. Allez, on commence dans un instant, juste après ton CV de coureur, Thibaut.
RMC Running, le CV de coureur.
T'as quel âge alors, Thibaut ?
36 ans.
Et tu cours depuis 2023 alors ?
2023.
Ok. Tu cours combien de fois par semaine ?
Alors, je cours 6 fois par semaine cette année en 2026. Je courrai 5 fois en 2025, 4 fois en 2024. Donc, vous me voyez venir. Je pense que 2029 sera une année...
Ouais. On va passer au double sortie, quoi. Ouais, le bi-quotidien, quoi. Ouais. Ça va arriver. Est-ce que ça représente combien de kilomètres en moyenne ?
Au minimum 60, okay. Jusqu'à... j'ai dépassé une fois les 100 km, histoire de dire que je l'avais fait, mais...
Voilà. Ok. Distance de prédilection, c'est le marathon ?
Ouais, clairement.
Ok. Est-ce que tu as des records perso dont tu es fier ?
Pas vraiment.
Pas fier ?
Non. J'étais content de certains temps au moment où je les ai faits.
Ok.
Mais quand je les regarde aujourd'hui...
C'est quoi le meilleur chrono sur marathon pour le moment ?
2,59.
2h59.
Ouais. 1h20 sur semi. Ah,
il est pas content.
Ouais, bah,
c'était mieux. Ouais. Non, mais j'étais très content de l'avoir fait.
Hein. Oui, bien sûr.
Donc voilà, je vais pas. Mais aujourd'hui, j'aimerais faire mieux.
Sur semi, 1h20 ?
Ouais, 1h20 et quelques secondes.
Ok.
Ouais.
Et sur 10 km ?
36 et quelques secondes.
Ok.
Ouais.
Très bien. Comment tu es coaché ?
Ah, alors je suis coaché principalement par une application.
Ok.
Et ça fait 3 ans maintenant, je commence, je pense, à en voir les limites.
C'est quoi l'application ?
C'est Rona.
Ok, Rona, ok.
J'utilise aussi beaucoup l'intelligence artificielle. J'avais adoré, comme beaucoup d'auditeurs d'ailleurs, qui le mentionnent, votre épisode là-dessus.
Avec Anthony.
Ouais, notamment le fait qu'on puisse maintenant, depuis quelques semaines, connecter son Strava avec une technologie directement à son système d'IA et dialoguer avec ses données. c'est quelque chose que je fais beaucoup pour mes stratégies de course, etc. Et puis on en parlait effectivement juste avant de commencer l'enregistrement. Je demande aussi à un système de me réaliser une newsletter hebdomadaire qui me scanne tous les articles scientifiques et qui me met en relation avec mes progrès dans la course. Et c'est quelque chose que je trouve marrant et qui m'apporte des informations.
Je t'ai dit ce qui t'attendait, hein, Johan. Moi, je t'ai prévenu. Hein. Après, t'en fais ce que tu veux. Ça, c'est sûr.
Magnifique.
C'est quoi la dernière course disputée ?
C'était un 10 km la semaine dernière.
Ok. La prochaine ?
La prochaine, c'est, j'espère, ce week-end, un 5 km dans l'ancien stade olympique d'Amsterdam.
Ah, sympa !
Ouais, c'est un collectif qui organise ça, et je crois que ça vient avec des food trucks, des DJ, etc.
Ok.
Et voilà, il y a un 5 km, et il y a, je crois, aussi un last man standing. Donc, tant que certains voudront continuer à parcourir le stade, course continuera, sachant qu'elle débute à 19h, donc je pense qu'ils y sont pour,
excellent.
pour toute la nuit.
Très, très bon principe, ça.
À plus de 24 heures.
Ok. Les contraintes familiales et professionnelles, on les a comprises. Ton métier te prend beaucoup de temps ?
Ouais, beaucoup, mais en même temps, je suis très libre aussi.
Ok.
Ce qui est,
c'est-à-dire peu d'heures de cours, mais beaucoup de recherche, c'est
ça ? Ouais, c'est ça.
Okay.
Que je distribue de la façon dont j'estime être la meilleure durant la semaine.
Ok. Et en termes d'entraînement, c'est-à-dire que tu as des week-ends de libre où là, tu peux t'organiser des grandes sorties longues, etc.
Oui, généralement, je le fais. Ouais, ou quand je suis en voyage aussi, j'en profite pour mettre les baskets et aller découvrir.
Ok.
Ouais, bon, nouvelle ville.
Magnifique. Thibaut, sois le bienvenu dans RMC Running. Tu as fait le déplacement en plus, donc on est très content de te recevoir. Quelle est la problématique majeure qui te pousse à prendre comme ça le train et à venir jusqu'ici à Paris alors ?
Alors, je pense que ça va être complémentaire avec un de vos derniers épisodes.
Ouais.
Je crois que votre invité, c'était Romain avec Seb Cornette.
Ouais.
j'ai une problématique qui est principalement centrée autour de la nutrition.
Ok.
Que ce soit à l'entraînement ou durant la course. Et j'ai effectivement tout un tas de questions à poser à notre très cher docteur Yodu. La première, qui est liée à l'entraînement, Donc, effectivement, j'ai essayé un peu de me renseigner, d'aller regarder ce qu'on pouvait trouver sur les stratégies de nutrition, etc. On lit, c'est 60 grammes de glucides par heure, 90, 120 pour certaines personnes. Ce qui me chagrine un peu avec ça, c'est que j'ai l'impression que c'est peu adapté, un, au niveau du coureur. Par exemple, peut-être que j'ai tort, mais il me semble que quand Sébastien Soé à Londres court en moins de 2 heures, il a un besoin glucidique qui est beaucoup plus important sur une heure donnée que ce que va être le mien, par exemple. Mm-hmm. Donc, comment est-ce qu'on fait pour calculer ça de façon très précise en fonction de du niveau du coureur, en fonction de la durée de la course, en fonction du poids aussi, potentiellement, du coureur. Donc ça, c'est vraiment une première question que j'ai pour arriver à avoir une stratégie de nutrition qui soit le plus optimale possible.
Voilà, déjà, c'est baliser un peu comme ça son profil et ses besoins en recharge glucidique durant l'effort, quoi, en gros.
C'est ça.
C'est comment on trouve les réponses à toutes ces questions. Johan, quels sont les conseils généraux que tu peux donner avant de rentrer dans le détail de la problématique de Thibaut ?
Les conseils généraux, c'est sûr que ton apport en glucides, il va dépendre de la durée de ton effort, plus que de la distance, parce qu'effectivement, sur un semi-marathon, typiquement, les meilleurs mondiaux vont mettre moins d'une heure, quand un coureur lambda peut mettre 1h40, 2h, 2h30 sur un semi, tu vois. Et donc, leurs besoins ne seront pas les mêmes. Donc déjà, il faut regarder plutôt la durée de l'effort et non pas la distance, parce qu'effectivement, on n'en a pas tous besoin. Après, sur la part de glucides qui est recommandée, moi, je sais que, par exemple, de mon côté, je la connais parce que j'ai fait un test à l'effort avec, ils connaissent ton poids, ta taille, tu vas courir sur un tapis et ça va être corrélé à ta fréquence cardiaque, à la détermination de tes seuils, et ils vont être en capacité de te donner ton grammage de glucides par rapport à la durée d'effort. Mais après, grosso modo, la fourchette, effectivement, quand tu cours aux alentours de 2 heures d'effort, on parle souvent de 60 grammes de glucides, et après, quand c'est un peu plus long, hein, quand tu dépasses les 3 heures, généralement j'ai lu qu'il te conseillait d'augmenter encore plus la part de glucides par heure, mais après c'est toute une question de tolérance aussi et de capacité d'absorption de tout ça. Et c'est là où est le vrai problème, c'est l'estomac et la course à pied qui fait que c'est un sport qui justement peut créer des déséquilibres intestinaux, et tout le monde n'est pas en capacité de prendre 60 ou 80 grammes de glucides par heure. Mais voilà, et après c'est pareil, de quel type de gel tu prends, quelle marque, comment ils sont avec, qu'est-ce qu'il y a dedans, est-ce que c'est des gels purs, est-ce que c'est des hydrogels avec de l'eau à l'intérieur. Il y a tellement de paramètres que c'est vrai que c'est assez compliqué de s'y retrouver, et il y a que soit l'expérience, soit faire un test sur tapis pour connaître sa quantité de glucides, et après de le tester régulièrement à l'entraînement, de tester des gels qui vous vont bien et de voir jusqu'à quand je me sens bien, et est-ce que si j'en prends pas assez, je sens un coup de mou aussi, tu vois. Et ça, il y a quand même l'expérience du terrain, elle est quand même très importante, ouais. Parce que Sébastien Sao, ouais, il peut prendre 120 grammes. En plus, c'est même pas lui, enfin, c'est ses managers qui sortent ça, c'est son équipementier en boisson énergétique qui sort ça. Moi, je suis. Pour avoir vu le ravitaillement et les voir à la vitesse où ils prennent les gourdes,
oui, t'as raison.
Je suis quand même surpris des chiffres annoncés. Tu vois, je trouve que c'est un peu surinterprété. Ouais.
On a du mal à imaginer qu'ils aillent au bout de la gourde à la vitesse à laquelle ils courent. Donc là, effectivement, ça reste à...
Et les ravitaux sont relativement courts quand même, je trouve.
Ça reste à prouver.
Toi
qui as l'air très, très carré, très minutieux, c'est que ça a été une vraie problématique dans ta pratique et sur les marathons notamment. Qu'est-ce qui s'est passé alors ?
Ouais, c'est vrai que ce que dit Yodu, effectivement, je l'entends bien. Sur l'expérience, moi l'expérience elle est très claire. Au bout de 25 km à 30 km, j'ai vraiment, c'est le cliché de ce qu'on appelle quand on se tape le mur, quoi, pendant la course.
Okay.
Il y a un vrai déficit calorique à ce moment-là, et pour cause, en fait, sur tous mes marathons, au bout de 20-25 km, j'ai de telles douleurs à l'estomac que je me dis, mais c'est peut-être la mauvaise solution, qu'il vaut mieux que j'arrête de prendre des gels.
Ouais.
Surtout que, enfin, vous le savez, pour avoir couru plus de marathons que moi, au bout du 30e kilomètre, c'est vraiment
la cour des miracles.
Ouais, la cour des miracles avec tout le monde sur le bas-côté, en train de vomir, etc. Donc je me dis
pas toujours. Hein, on rassure ceux qui nous écoutent, mais ça arrive. Ça arrive. Ouais.
Et donc je me dis il vaut mieux que j'arrête, mais que moi je cours, que je continue à courir, quitte à courir moins vite, plutôt que de continuer à prendre des gels de force et devoir m'arrêter. Donc pour moi l'expérience,
c'est comme des crampes d'estomac qui te poussent à t'arrêter, et aller aux toilettes.
Ouais, j'ai l'impression que je peux situer chacun des organes dans mon estomac et que ils se font un peu tous la guerre. Ouais.
Et tu as une expérience marathon quand même, parce que tu as fait 5 marathons depuis que tu as commencé la course à pied. Dans tes entraînements, tu avais intégré la prise de gel. À l'entraînement, ça passait bien. Qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau-là?
Ouais, alors ça, c'est effectivement aussi une autre question que j'ai. Donc, sur l'entraînement, j'ai fait tout ce qu'on m'a dit de faire. Hein. Donc, sur les sorties longues, j'ai pris mes gels.
Ouais.
Je le faisais sur une base kilométrique. Après vous avoir écouté, je suis passé sur une base plus temporelle. Donc, de prendre un gel tous les 25 minutes.
Ouais.
Ce qui semble-t-il fonctionne à l'entraînement. Le problème, c'est qu'effectivement, j'ai l'impression que ça suffit pas. Et aujourd'hui, quand je regarde à peu près sur toutes mes variables, que ce soit le sommeil, la nutrition, les entraînements, etc., j'ai l'impression de tout bien faire. Et sur l'aspect nutrition, il y a un vrai problème.
Ouais.
Et donc, j'ai envie, si possible, de prendre une approche qui soit radicale et de ne pas continuer dans ce mindset que j'avais où je me disais, je vais essayer de petit à petit progresser, passer de 40 grammes par heure à 50, etc. Et donc, la question que j'ai peut-être, c'est aussi une question, donc une fois encore, durant l'entraînement, à quel moment est-ce qu'il faut que je m'entraîne à prendre des gels, si on met de côté l'aspect financier, parce qu'effectivement, ça coûte cher.
Oui.
Mais
il y a des gels à 2 euros quand même.
Ouais, des gels à 2 euros. Ouais. Voilà. Mais la question que j'ai, c'est est-ce que. Donc sur les sorties longues, ok, bon, ça c'est très bien, je les prends toutes les 25 minutes. Est-ce que je les prends aussi sur mes intervalles, sur mes sorties tempo? Est-ce que potentiellement je les prends sur toutes mes sorties, quand je dépasse, 8 km par exemple? Voilà. Quelle est un peu la stratégie idéale?
T'as jamais eu de soucis à l'entraînement avec une prise de gel? Jamais.
À l'entraînement, c'est-à-dire que généralement je m'arrête au plus à 34 km.
Ouais.
Et donc,
mais quand même.
Ouais, je sens que c'est difficile.
Ah, tu sens déjà, donc.
Ouais, je sens que ça commence à être difficile, mais bon, après, on en parlait tous les deux avant de commencer l'enregistrement. Si je prends un gel sur une allure que j'estime être facile, je peux non seulement prendre un gel, mais je peux aussi manger un poulet basquez, ça ne pose aucun problème.
Bien sûr.
Voilà. Donc, j'ai l'impression qu'il y a pas assez de kilomètres à allure marathon sur une prépa marathon pour pouvoir atteindre mon objectif.
Ouais, mais ça, je comprends.
Donc, comment je fais?
Iodu.
Ouais, non. Après, est-ce que pour revenir d'abord sur l'aspect compétition, tu prends bien tous tes gels de façon régulière, t'en prends pas trop d'un coup, est-ce que tu t'hydrates derrière? Il y a cette première partie qu'il faut éclaircir, parce que peut-être que la problématique vient aussi du jour J. Et après, ouais, t'entraîner à prendre tes gels, ça c'est c'est le moyen le plus efficace pour habituer ton système digestif et faire en sorte qu'il puisse s'adapter justement à cette prise de glucides pendant l'effort. Et grosso modo, tu vas entraîner ton intestin à être prêt le jour J. Donc oui, sur les sorties longues, c'est sûr. Après, ce qu'il faut faire, c'est quand même utiliser souvent les mêmes gels, la même marque et les mêmes goûts pour voir si ça te correspond ou pas. Il ne faut pas passer d'une marque à l'autre et sauter. Si ça ne te correspond pas, tu les mets de côté et tu ne les utilises plus et tu passes sur autre chose. Ça, c'est une certitude. Tu as les sorties longues. Alors, les prendre en endurance fondamentale, pourquoi pas, mais je pense que ton système digestif, il n'est peut-être pas assez agressé par un cardio haut, par le stress de la compète, par tous les éléments extérieurs qui font que, à mon avis, ça va forcément bien se passer. Et ça ne sera peut-être pas représentatif de ce que tu vas avoir à faire le jour du marathon. Même si pour t'entraîner et pour habituer ton intestin, ça peut être une solution. Et après, effectivement, sur des séances tempo, seuil, là, ça peut être intéressant de les prendre. Et d'autant plus, de ne pas attendre, ça c'est un conseil qu'on donne avec Benoît, de ne pas les prendre sur la récup, mais plutôt pendant les efforts. Si tu as 4 fois 8 minutes au seuil, de le prendre sur pendant les 8 minutes et pas pendant tes 2 minutes de récupération. Et pareil pour l'hydratation. Et donc, tout ça pour revenir à la question, comment est-ce que tu fonctionnes le jour J? Est-ce que tu fais gel plus eau, gel plus boisson d'effort? Ça, c'est un élément qui peut être important. Ouais.
La boisson d'effort, ça te pose problème parce que tu ne veux pas courir forcément avec de l'eau, hein, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ce que j'ai fait sur le premier marathon. Je suis parti avec deux gourdes. Ouais. Ben, qui faisait un litre chacun, donc 2 kilos en plus.
Ouais.
Et je me dis, bah, s'il faut le faire, je le ferai. Mais...
2 litres, c'est beaucoup.
Ouais, c'est beaucoup. Ouais.
C'est sûr.
C'est peut-être pas la solution la plus optimale.
Donc tu fais 60 grammes que des gels.
Que des gels, exactement. Et j'avais trouvé des gels qui étaient assez liquides, mais je me suis rendu compte que peut-être qu'il n'y avait pas tous les apports nécessaires dans ces gels-là. Et donc, il y a quelques semaines, je me suis dit que j'allais changer de marque, effectivement. Ouais. Donc je suis en train de tester tous les goûts possibles.
Okay.
C'est ce qui m'a rappelé d'ailleurs vos discussions sur les goûts là. Je ne sais plus ce que vous aviez trouvé, pomme, caramel, etc.
Ah ouais, ouais. Bah après,
que j'ai dû adorer manger.
Ouais, chacun ses goûts, mais c'est vrai que là, c'est vraiment en fonction des plaisirs de chacun. T'as jamais eu de problème gustatif? C'est vraiment un problème digestif? C'est-à-dire que le goût te gêne pas trop? C'est vraiment au moment où tu digères tout ça que tu sens que les crampes arrivent et que ça devient douloureux?
Ouais, alors le goût, j'ai essayé, pour pas la citer, mais une marque très connue qui fait des gels sans goût.
Ouais.
C'était une expérience détestable. Je trouve que cette sensation de se mettre quelque chose dans la bouche comme ça, un peu qui font un peu mâcher sans le moindre goût, ça ressemble à rien de ce que je fais en dehors de la course, donc c'est pas pour moi.
Okay.
Et puis sur les goûts, bah, je suis en train d'essayer effectivement de voir s'il y en a qui vont mieux que d'autres.
T'es plus gel que hydrogel ou gel isotonique, parce que derrière un gel classique, il faut s'hydrater. Ouais,
alors ça, c'est ce que j'ai découvert. C'est une autre question. C'est ce que j'ai découvert récemment, là, en faisant l'analyse de mon marathon de Londres.
Une revue scientifique, non?
Ouais. Ouais, je pense que j'ai dû utiliser Claude, pour ne pas le citer, pour effectivement aller comparer en prenant des photos de tous mes gels pour voir ce qu'il y avait de commun entre ces gels-là. J'ai découvert la différence entre un gel isotonique et non isotonique.
Okay.
Qu'il faut prendre de l'eau derrière une catégorie de gel et pas derrière l'autre catégorie de gel. Et donc, la question que j'ai, c'est si je fais une course où je prends des gels, par exemple, toutes les 25 minutes ou toutes les 30 minutes, comment est-ce que je fais s'il faut que je prenne de l'eau après ma prise de gel pour que ça tombe de façon bien synchronisée?
Ouais, là, c'est pas simple, effectivement, parce que effectivement, si tu fonctionnes plutôt en temps qu'en distance, on sait que sur les marathons, les ravitaux sont quasiment tous les 5 km. Mmh. Et donc, toi, si tu fractionnes en temps, si tu te dis ça va être toutes les 25 minutes, tu vas te retrouver un peu coincé, et si tu prends un gel classique, tu vas pas pouvoir t'hydrater derrière. Et en plus, la problématique de l'hydratation, c'est que dans quelques années, il faudra t'arrêter pour prendre ton gobelet ton pistolet et remplir ta flasque.
Malheureusement, c'est le sens de l'histoire, et là, il faudra que tu t'adaptes. Ouais, c'est sûr. Ouais.
Ouais. Là, il faudra courir avec une flasque, ce qui, dans ton cas, pourra faire en sorte que tu seras totalement autonome et que tu pourras prendre ton gel classique et derrière t'hydrater, te rincer la bouche, faire en sorte que ce gel il s'absorbe un petit peu mieux. Ou alors après, il faut essayer les gels isotoniques ou les hydrogels qui sont censés normalement sur le papier ne pas demander un apport d'eau juste derrière. Ouais.
Exactement.
Mais ça, c'est sur le papier. Après, j'ai jamais vraiment testé, donc je peux pas te dire si c'est vraiment efficace ou pas, quoi.
C'est peut-être une question que j'ai, si je peux me permettre. Comment vous faites, vous deux? Est-ce que vous utilisez la même marque de gel depuis 15 ans et puis vous savez que ça fonctionne? Est-ce que vous avez changé? Comment vous faites les adaptations?
Alors, Johan a différents sponsors, donc ça a changé ces dernières saisons.
La problématique, elle est différente parce que j'ai ma boisson. Je tourne à la boisson d'effort et j'ai juste un ou deux gels à prendre sur mes 42 bornes.
Ouais.
Donc, je fais tout à la boisson d'effort, et ce qui est quand même beaucoup plus digeste, et j'ai juste deux gels à prendre, tu vois, même pas. J'en prends un et demi. Donc, c'est différent. Mais Benoît, lui, c'est une stratégie différente.
Moi, j'ai jamais eu de problème gastrique aussi poussé que les tiens. En revanche, moi, ça m'est arrivé au début des prépa marathons que ça me provoque des crampes des points de côté. Pardon. Et ça, c'est pareil. C'est un enfer à gérer. Une fois que le point de côté est là pour le faire partir en allure marathon, c'est très dur à gérer. Je t'avoue aussi que moi, je choisis mes marathons en fonction des ravitaux. C'est-à-dire que l'avantage de Valence, c'est que pour le moment, il y a encore des bouteilles d'eau et que mine de rien, c'est quand même pour les coureurs amateurs un aspect positif non négligeable, parce que ça te permet, comme tu dis, de ne pas porter toute ton hydratation.
Bah ouais.
En revanche...
En plus, quand tu cours à...
Et voilà,
15 à l'heure.
Exactement. En revanche, à Valence, je suis quand même parti, ce que je te disais avant, avec une flasque, où là, je me suis dit, c'est une flasque de secours pour digérer un gel si jamais, un moment, plutôt que de le prendre tous les 5 bornes, j'en ai un peu ras-le-bol et que je veux le prendre 2 km après, laisser une espèce de part d'inconnu où tu te dis, il faut quand même si ton plan est établi à l'avance, te laisser une espèce de zone grise où tu peux t'adapter à tes sensations du jour, tu vois. Moi, très rares sont les marathons où je suis allé au bout de ma stratégie en prenant un gel tous les 5 km jusqu'au bout. Ouais. Il y a toujours un moment où tu te dis, ça y est, quoi, laisse-moi tranquille, j'en ai ras-le-bol. Allez, il m'est arrivé aussi de jeter la flasque carrément, tellement. Tu sais, après, t'es obsédé, tu te dis, ça pèse un peu, allez hop, ouais, je la jette aussi, c'est pas grave, j'en rachèterai une autre. Mais ouais, là on est tous différents. En termes de goût, j'ai jamais eu de problème. En termes de problème gastrique pur non plus. En revanche, pour moi, ce que tu disais toi, pour moi, il faut boire après l'absorption d'un gel, il faut toujours boire, sinon c'est un enfer, ça reste dans la bouche et ça t'assèche comme ça le palais et c'est insupportable. Donc ouais. Non, ça c'est sûr qu'il faut être vigilant à ça. Il y a l'aspect aussi dont je t'ai parlé, des compotes.
Ouais.
Ça, c'est une autre alternative qui sont en train d'être mises en place. Il y a Androsport, avec qui on bosse régulièrement, qui fait des compotes boostées. C'est différent aussi parce que c'est de la compote, mais bon, quand tu l'as dans la ceinture, la compote chauffe un peu, donc est-ce que c'est agréable de manger de la compote de fruits un peu tiède et c'est pas de la compote pure, donc forcément elle est un peu boostée, ça a un goût un peu différent, ouais. Mais est-ce que ça peut mieux passer? En fait, c'est le meilleur conseil à ce stade qu'on peut te donner, je pense, c'est tester, ouais, ça c'est sûr.
Ouais.
Tu testes à bloc et puis après tu verras aussi ce qui te correspond. Mais Johan, est-ce qu'il n'y a pas aussi une sorte de problématique de médecine générale à conseiller à Thibaut d'aller consulter aussi un gastro-entérologue et de se dire, d'expliquer le problème tout simplement, en fait. Ouais.
Ouais. Moi, je prenais un produit perméaline de chez Pilège qui imperméabilisait la paroi de l'intestin. C'est-à-dire que je m'étais rendu compte qu'effectivement, les premières fois où je suis monté sur marathon, j'avais quand même un peu des inconforts et c'était un peu compliqué justement toute cette partie gel. Et puis en plus, il y a 10 ans de ça, les gels étaient quand même beaucoup moins... moins doux qu'aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire que c'était vraiment des gels, c'était des bombes à retardement que tu prenais. Hein. C'était les coups de boost, je peux te dire, c'était coups de fouet. Et donc, du coup, tu peux imperméabiliser ton intestin et faire en sorte justement qu'il soit peut-être un petit peu moins fragile à l'effort. Et ça fait partie, à mon avis, des pistes sur lesquelles tu peux aussi mener en parallèle de ma quantité de gel, quelle marque, habituer mon intestin. Ça peut être une très bonne piste à aller chercher. Ouais.
On parlait de dosage aussi. Peut-être que pour toi, prendre un gel d'un coup en entier, c'est trop. Peut-être qu'il faut le couper en deux et le prendre,
parce
au lieu
que
de prendre toutes les 25, le prendre toutes les 10 minutes. On sait pas, tu vois. En fait,
tu prends 3 gels par heure?
Non, 2.
Ouais, 2. Et puis de toute façon, une fois encore, 2. J'ai arrêté au 25e. Donc réalité, j'en ai quand même pris sur tous mes marathons beaucoup moins que ce qui était préconisé.
Après, moi, je te dis ça, mais on sait tous qu'une fois que le gel est ouvert, ça colle. C'est jamais pratique quand t'es dans tes allures à 2,50 à 15 à l'heure de te dire, allez, je vais replier le gel, je vais le. Ça, c'est...
Ouais, mais t'as des gels dosés à 15 grammes. Hein. Chez Meltonic, t'as des gels qui sont à 15 grammes. Et c'est quand même deux fois moins qu'un gel classique plutôt dosé à 30 grammes. Donc, tu peux le fractionner plus facilement. Ouais.
Ouais.
Il y a aussi ce que disait Johan, l'astuce de je pars du principe que je pars avec une flasque de 200-300. Je me dis, je mets de la boisson d'effort dedans.
Ouais.
Et ça peut combler un peu cette carence. La boisson sera beaucoup plus facile à ingérer pour toi que le gel aussi d'effort. Quoi.
Ouais. Je me posais la question des gels inverses presque, ceux qui sont beaucoup plus grammés,
ouais.
En me disant, au moins, ça peut potentiellement me permettre d'espacer la prise de gel. Est-ce que c'est peut-être plus facile à digérer ou pas? Non, ça n'a pas l'air.
Après, c'est pas ça, c'est que c'est ton estomac, en fait.
Ouais,
c'est comme on est tous différents, peut-être que certains vont le digérer et toi encore moins. Ouais. C'est pareil, c'est du testing à l'entraînement aussi. Donc,
C'est vrai que ta problématique, c'est qu'en plus, tu cours vite. Donc, on ne peut pas te proposer d'aller sur des gommes, des pâtes de fruits, parce que tu n'as pas le temps de mastiquer ou de mâcher comme quelqu'un qui mettrait 4 heures. Quoi. Parce que sinon, effectivement, les gommes, les pâtes de fruits, les barres peuvent être, pour tous ceux qui ont cette problématique-là, mais qui sont plutôt sur des chronos en plus de 3h30, 4 heures, pour eux, ça peut être une bonne solution. Après, il faut aussi, on parlait tout à l'heure de faire en sorte que l'intestin soit peut-être un peu moins irritable, de regarder aussi ton assiette les jours d'avant, tu vois, enlever les fibres, les choses comme ça, tous les produits sur lesquels tu peux être peut-être un peu sensible dans les jours précédents le marathon pour arriver le plus frais et dispo le jour J. Ouais.
Ouais,
mais ça, je pense que, enfin, en découvrant ton profil comme ça, je me dis que ça t'est assez vigilant à ce genre de choses.
Ouais, alors ça, pour le coup, c'est, voilà. J'ai pris des photos de tous mes plats.
Ouais, ça m'étonne pas.
J'ai tout donné, j'ai mesuré, j'ai mangé les 5 bagels la veille. Pour
avoir, voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Mais en fait, ce qui me peine pour toi, c'est que j'imagine l'investissement que tu émets au quotidien, et j'imagine aussi l'état de stress dans lequel tu te trouves au moment du départ. Parce que finalement, malheureusement, alors que c'est un peu un moment libérateur et tu dois profiter de tout le travail accumulé, toi, tu dois avoir l'obsession de te dire « Putain, j'espère que ça va bien se passer de ce niveau-là à ce niveau-là et tout, et que ça va pas me refaire le coup et tout. »
Ouais.
C'est un stress supplémentaire.
C'est un stress et c'est peut-être aussi une autre question que j'ai, c'est comment est-ce qu'on peut s'adapter durant la course de façon intelligente. Donc, par exemple, est-ce qu'il y a vraiment... Je pense par exemple au battement cardiaque. Mmh. Est-ce que je peux me servir de cette donnée pour me dire « Bon, ben là, ok, là, c'est la limite que tu as franchie et là, il faut que tu arrêtes ta prise de gel. » est-ce que je peux utiliser ouais. quelque chose pour me dire bon bah voilà là c'est la décision intelligente à ce moment-là c'est d'arrêter
ouais, mais c'est une bonne question il y a du
ouais bah effectivement on sait que une intensité trop rapide une course un départ trop vite le fait d'être un peu en sur-régime ton sang il est davantage dirigé vers les muscles que vers ton intestin grosso modo et ça va favoriser tes douleurs digestives donc peut-être que prendre un départ un peu plus tempo enfin, temporiser et être vraiment peut-être sur la première partie de course, au moins les 25 premiers kilomètres, un peu conservateur et partir un petit peu plus cool, ça peut être une stratégie justement pour pas agresser ton intestin et faire en sorte de toute cette première partie qui pour toi est délicate se passe bien. Et ça, après, bah, il faut que tu le regardes. Enfin, c'est tes allures, tu les connais parfaitement, tu regardes ta fréquence cardiaque, tu les connais. Mais je pense que cette stratégie de course de faire en sorte de pas partir trop vite et pour pas non plus te mettre le couteau sous la gorge cardiaquement et faire en sorte que ton intestin il soit directement agressé ça peut être une bonne stratégie pour ton prochain marathon mais c'est vraiment à 5 BPM de moins que ce que tu as l'habitude d'avoir si tu les regardes assez régulièrement ouais
parce que tu nous as dit ça m'a coûté cher sur les marathons. Ce qui t'a coûté cher, est-ce que ce sont les crampes d'estomac ou est-ce que tu penses que c'est le manque d'absorption de gel et d'énergie pendant la course ?
Ouais, plus ça, parce que les crampes d'estomac...
Mais est-ce que tu es sûr de ça ? C'est-à-dire, est-ce que quand tu as connu le mur, ça veut dire que tu as eu vraiment ce coup de barre physique où tu t'es dit, boum, ça y est, là, il n'y a plus d'énergie dans le moteur ?
Ouais, je pense que c'est ça, parce que sur mes 3 derniers marathons, il y a vraiment une corrélation qui est assez stricte entre le moment où les battements cardiaques augmentent et l'allure qui réduit de façon significative. On parle de 20 secondes au kilomètre.
Ok, ouais.
Et derrière, l'incapacité...
Avec
vraiment,
les mêmes BPM
avec des BPM plus élevés. Non, ça, et c'est ouais, toujours
cœur,
au même...
Le cœur
plus élevé
encore.
Baisse, ah ouais, ouais, plus élevé encore.
Ouais. Le corps qui dit, ouais. C'est dérive ouais. cardiaque, là, c'est, ça y est,
ouais,
je peux
qui
plus.
Dit, c'est ouais. plus possible. Et donc, à Londres, le marathon dernier que j'ai couru en avril, j'ai estimé qu'il faisait un peu trop chaud pour moi.
Ouais.
Donc, je me suis dit, je m'étais entraîné pour 4 minutes au kilomètre.
Ouais.
Et au bout du 7e kilomètre, j'ai réalisé que ça ne serait pas possible. Je me dis, bon, tu le cours en 4-10, 4-15. Donc, c'est quand même une différence significative. Et malgré ça, à partir du 25e kilomètre, impossible de consommer le moindre gel. Et donc, j'ai arrêté une fois encore. Et je le paye.
Impossible parce que douleur intestinale
ouais,
déjà.
Des douleurs, pas possible, vraiment. Ouais.
Ouais, non, ouais. Là, c'est dur à régler.
Après, dès qu'il fait chaud, c'est
x2. Oui,
hein. C'est un peu plus compliqué dès qu'il fait chaud aussi. Hein.
Ouais. Ouais, et puis en plus, je me suis dit, je vais me mettre de l'eau dessus. J'avais un t-shirt qui collait. Donc finalement, je me retrouve avec un t-shirt froid alors qu'il fait chaud. Dehors.
Voilà, ça, on connaît.
Froid sur le ventre.
Sur
ah,
le
oui.
ventre, ouais.
Rien qui va.
Voilà.
Ouais, c'était super.
Après, t'as les tétons en feu parce qu'avec l'eau, forcément, et le dossard qui tire le t-shirt, c'est un enfer. Voilà, toutes ces sensations agréables du marathon, ouais, ouais. C'est sûr.
Et puis, t'as oublié aussi la fois où tu penses prendre un verre d'eau. Puis en fait, t'as pris une boisson isotonique
voilà.
que tu t'es versé voilà. sur le corps.
Ah ouais,
que
et
tu te la mets sur la
et tout. Le gâteau raide sur le visage, quoi. Tout ce qu'il faut, quoi. Ouais, incroyable. Mais. C'est la question que j'allais te poser, Johan, c'est est-ce que dans le profil de Thibaut, il n'y a pas un aspect aussi psychologique à tout ça ? Tu vois, il est persuadé que c'est ça qui lui pose problème et qui amène comme ça la fatigue musculaire et voilà le coup de barre. Alors que finalement, on se rend compte qu'il s'entraîne bien, on se rend compte que jusqu'à 20-25 km, ça passe quand même les gels. Donc, c'est pas comme s'il consommait rien du début jusqu'au 25e kilomètre. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté, j'allais dire un effet placebo, mais ce n'est peut-être pas le bon mot, mais est-ce que c'est la seule explication pour toi, Johan, Ou est-ce qu'il ne faut pas se contenter de ça et se dire peut-être que dans l'entraînement, il faut changer des choses, peut-être que aussi, voilà, dans la façon d'arriver un peu plus frais et moins fatigué, tu vois, est-ce qu'on peut se dire uniquement c'est un problème nutritif ou est-ce que non, ça peut être autre chose?
Ah non, ouais, t'as raison. T'as raison, c'est un ensemble tu vois, de choses.
Je pense qu'il ne faut pas que tu t'enfermes là-dedans, Thibaut, à mon avis.
Ouais.
Vas-y, Yodi, vas-y.
C'est plein d'éléments à apporter, à changer. Tu vois, bon, c'est pour ça que je t'avais posé la question des jours d'avant. Donc, parce qu'il y en a qui font cette erreur-là, de continuer à prendre trop de fibres et après d'arriver sur une course avec un intestin un peu déjà abîmé. Pareil, dans ton cas, des départs rapides avec une grosse intensité. Là, ce n'est pas le cas. Si déjà au bout de 7 bornes, tu ralentis et que même en baissant l'intensité à 15 secondes du kilo, tu as la FC qui continue à monter et tu as ce problème d'irritation, effectivement, ça ne vient pas non plus d'un problème de départ trop rapide et tout ça. Donc, c'est certainement un ensemble de paramètres qu'il faut aller chercher. Alors, le côté mental, j'y crois pas. Mais peut-être que son cerveau, pendant la course, se dise à un moment donné, ça va dérailler. Et quand ça arrive, bah, tu penses, et ça finit par arriver. Effectivement, ça peut être un problème jusqu'à ce qu'il trouve la solution. Mais après, il faudrait savoir, tu vois, vraiment le type de douleur. Est-ce que c'est plus des crampes, des brûlures, si tu as envie d'aller aux toilettes? Est-ce que dès que tu arrêtes de courir après le marathon et que tu passes la ligne d'arrivée, est-ce que après ça va mieux dans les quelques heures qui viennent ou ça reste pendant plusieurs jours? Tu vois, c'est des questions qui parce que c'est peut-être son intestin qui est pas fait pour les efforts longs et dans ce cas-là, il faut aller le protéger en prenant des produits assez réguliers pendant 6 mois parce que c'est un travail de fond pour son intestin. Ouais.
D'ailleurs, je pense à ça pendant qu'on discute tous ensemble. Peut-être qu'il sera sorti au moment de la publication de ce podcast, mais on a fait un excellent podcast sur les compléments alimentaires au quotidien et même dans la pratique sportive. Donc tu peux aller l'écouter. C'était avec Optimum Nutrition et surtout avec Alice Michel, notre nutritionniste. Là aussi. Il y a peut-être des conseils à aller piocher, pas uniquement au moment de la course, mais dans ton alimentation quotidienne pour aller renforcer une carence.
Non, dans l'avant.
Ça peut passer par une prise de sang et la consultation d'un généraliste et essayer d'aller au bout de ce problème. Je pense qu'il y a vraiment un aspect de t'enlever ce problème mental, entre guillemets, de pas que ça pollue toute ta prépa et ton jour de course. Quoi, parce que ça, c'est vrai que c'est comme le gars qui a un problème à l'ischio, un problème chronique à l'ischio et qui, au moment du départ, va penser qu'à ça. Se dire, au 25e, est-ce que ça va tenir? Est-ce que si,
ouais, c'est ça.
Qui va te pourrir comme ça ta course, alors que finalement, au départ, il n'y a peut-être pas de raison de. Ça, c'est sûr.
Et puis, pour répondre à ta question, Yodu...
Et pendant la course, au 22, tu doutes, tu sautes un ravito et crac, après, tu es en déficit.
C'est le cycle infernal. Pour répondre à ta question, moi, il suffit que je m'arrête, que je me mette à marcher ou que je m'arrête et je n'ai plus aucune douleur. Donc, c'est peut-être aussi qu'il y a un aspect, effectivement, peut-être un peu psychologique.
Ouais.
La question que j'ai, c'est... Donc, j'entends qu'effectivement, il faut tester. Est-ce que la seule solution, c'est de tester... pendant un autre marathon et c'est la seule chose qui pourra me faire dire ok, tu as trouvé la solution, ou est-ce que je peux mettre un protocole en place durant l'entraînement qui m'indique que je suis au moins dans la bonne voie?
Ouais, alors je pense que les entraînements spécifiques marathon, sortie longue, vraiment les entraînements qui se rapprocheront le plus de la compétition t'aideront là-dessus. Mais après, le problème de la compétition, c'est que tu as un stress que tu n'as pas le jour J. Tu vois, dans le football, quand on dit ça sert à rien de tirer des pénaltys à l'entraînement parce que tu n'arrives pas à retranscrire ce que tu vas ressentir quand tu es devant 80 000 personnes. Ben là, c'est pareil. Tu as beau t'entraîner sur tes allures. C'est pas du tout la même chose avec la même adrénaline, le même stress, la même énergie autour de toi par rapport à ton marathon. Donc peut-être que faire un marathon test, un truc que tu vas courir en 3h15, 3h20 pour pacer quelqu'un, tu vois, sur une allure un peu tempo et sur lequel par contre tu vas être ultra focus sur ton alimentation et en essayant de voir et faire en sorte que ça se passe bien, ça peut être une stratégie. Après, le fait que tes douleurs elles disparaissent quand tu t'arrêtes, c'est que c'est vraiment un trouble qui est lié à l'effort. Et
ouais,
là, faut peut-être aller consulter un médecin du sport ou un gastro-entérologue ou je sais pas, mais c'est vraiment lié à l'effort pur.
Mais juste Yodu,
ça te poursuit pas dans ton quotidien.
C'est toi le professionnel, Yodu. Moi, je me permets juste une remarque. Plutôt que d'aller c'est un grand mot, mais plutôt que d'aller sacrifier un marathon, est-ce qu'il n'y a pas une astuce à trouver en prépa marathon, c'est-à-dire de se trouver dans une bonne zone, une bonne date, à 6 semaines de l'échéance, un bon semi, faire une bonne sortie d'échauffement avant, s'attaquer au semi, c'est-à-dire se retrouver avec un volume de 30 bornes, et là, un peu simuler justement les effets du marathon avec de l'absorption de gel dès le début de la séance, c'est-à-dire même pendant l'échauffement, et de voir comment le corps réagit pendant l'allure marathon du semi. Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que ça aussi, tu arrives à un volume d'une sortie longue de 30 km, donc tu seras dans ta zone où toi, c'est là où tout déraille un petit peu. Ouais. Tu seras sur un semi, donc tu auras moins le stress, effectivement, de te dire, bon, voilà, malheureusement, là, ça va mal se passer à la fin. Et puis, tu auras pu le tester sur une autre distance que le marathon, plutôt que de sacrifier comme ça une prépa et de te dire, je fais juste ça pour tester mes trucs, tu vois.
Ouais.
Pourquoi pas, hein, sur semi, ça peut être pas mal.
Ouais, ça peut être un bon
test. Non, oui, alors il faut créer une pré-fatigue, parce que si tu dis que ça t'arrive au 20-25, sur le semi, tu vois, tu vas toucher du doigt la sensation. Et puis même, vu comme il court vite, un semi, il le fait en 1h20, donc
ouais,
tu vois, t'es un peu limite parce que tu peux tenir même presque 1h20 sans prendre de ravito et sans te taper le mur. Donc, mais il faut peut-être, voilà, en créant une pré-fatigue, en faisant son semi comme ça. Et puis après, déterminer est-ce que c'est l'estomac, est-ce que c'est l'intestin. Ça, c'est pas simple aussi à essayer de voir la différence entre les deux, tu vois. Et je pense que consulter un médecin du sport ou un spécialiste sur ça, ça peut être une bonne solution. Ouais.
Thibaut, est-ce que tu as une dernière question pour le maître Yodu ?
Ah, peut-être pour boucler la boucle. Ouais. Donc effectivement, cette idée, donc, peut-être d'aller m'adresser à un professionnel de santé pour faire un test. Tu mentionnais, Yodu, le test d'effort. C'est un test d'effort classique dont on parle, qui en plus va aller quantifier le besoin glucidique. Ou alors, est-ce qu'on parle d'un test spécifique qui s'attaque à cette problématique-là ?
Moi, j'avais fait un test d'effort classique pour déterminer les seuils, mais c'est pas vraiment une façon directe parce que c'est une estimation grosso modo en fonction de l'intensité que tu vas mettre dans ta course et ils vont estimer ta consommation grosso modo de glucides que tu vas devoir avoir, tu vois. Mais c'est un test pour lequel tu détermines tes seuils, ta fréquence cardiaque maximum, ta fréquence cardiaque au seuil, tes différentes intensités et là ça va te sortir, ouais, grosso modo, tes besoins. Mais c'est pas la réalité, c'est pas fiable à 100%, quoi. Après, est-ce que tu vas pouvoir consommer le jour, enfin, sur le terrain et être en capacité d'absorber. Et ça, c'est un protocole différent parce que moi, je le vois dès que je dépense un certain grammage. Je note que je commence à avoir mal au ventre, je commence à avoir pas envie de vomir, mais de pas être bien. Et donc je pense qu'il faut que t'aies les deux, c'est-à-dire que le test d'effort va te donner une fourchette, et en fonction de cette fourchette, tu pourras plus ou moins démarrer. Admettons si la fourchette elle te dit 60 grammes, tu démarres tes sorties à 50, et puis si ça passe, après tu peux passer à 60, mais c'est pas 60 écrit marbré comme les seuils qui, pour le coup, eux, sont la FC Max, tes seuils, eux, seront fiables à 100%. Ouais.
Non, il faut toujours une gestion intelligente et voir ce que toi, tu tolères. C'est-à-dire que les statistiques, c'est très bien, mais aussi la gestion, il n'y a personne qui se connaît mieux que toi. Donc,
et voilà, la tolérance après sur le terrain.
Exactement. Thibaut, c'était un plaisir de te recevoir. Merci beaucoup.
Mais ça peut être utile.
Prochain marathon à Vérone. Tu l'as choisi parce que d'après l'intelligence artificielle, c'était celui avec les meilleures données possibles pour réaliser une perf. Donc, on a poussé le truc jusque-là. C'est quoi la date du marathon de Vérone ?
C'est le 15 novembre.
15 novembre, magnifique. Et voilà. En plus, pour te récompenser et te remercier de t'être déplacé, je vais t'offrir un dossard pour les 20 km de Paris, si ça t'intéresse. Donc voilà, tu viendras faire une sortie d'entraînement. On sera à bonne date en plus. On sera à un mois de l'échéance, donc tu seras bien. Tu pourras tester
4 semaines ou 5 semaines avant.
Sur la plus belle course parisienne, tu viendras avec nous dans l'équipe RMC Running et tu seras le bienvenu. Donc voilà, le week-end du 11 octobre à Paris pour les 20K. Merci Thibaut d'être venu.
J'en profite pour vous remercier pour tout ce que vous faites, c'est vraiment génial.
Ah bah c'est gentil, merci beaucoup. Un grand merci au maître Yodu, en direct de ces montagnes, et vous connaissez le principe, si vous voulez échanger avec lui 40 minutes, vous adressez un mail à l'adresse mail suivante, podcast@gmail.com. Merci à tous, et toujours ce conseil pour terminer, quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous.